Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons lire le livre écrit par Agatha Christie, Les Quatre. Nous allons poursuivre cette lecture, comme nous sommes à peu près à mi-lecture du livre. Je veux reprendre l'information qui est donnée sur la quatrième de couverture et qui résume, en gros, l'histoire que nous sommes en train de lire. Une enquête sur les quatre ? Quels quatre ? S'agit-il d'un quatuor musical ? Des quatre grands ? Du pacte à quatre ? Oh non ! Tout cela ne saurait constituer matière à enquête pour l'illustrissime Hercule Poirot. Et les quatre en question sont des adversaires à sa mesure, un quatuor criminel. Une bande de criminels internationaux dont le but n'est rien moins que de s'assurer la domination du monde. Bigre, voilà des ennemis, comme le célèbre détective n'aurait osé en rêver. Et une rude bataille en perspective. Chapitre 11. Un problème d'échec. Poirot et moi, nous dînions souvent dans un restaurant de Soho. Nous nous y trouvions un certain soir lorsque nous reconnûmes un ami à une table voisine. C'était notre cher inspecteur Japp. Il s'était écoulé un certain temps depuis notre dernière rencontre avec l'homme de Scotland Yard. « Vous vous faites rare, mon ami, » lui dit Poirot sur un ton de reproche en l'invitant à notre table. « La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était au moment de l'affaire du jasmin jaune, c'est-à-dire il y a plus d'un mois. J'ai dû me rendre dans le nord, voilà l'unique raison. » « Comment vont vos affaires ? Les quatre se portent-ils toujours bien ? Ah, vous vous moquez de moi, Japp ! Et pourtant, sachez-le, les quatre existent bien. Oh, je vous l'accorde, mais je ne pense pas qu'ils soient l'axe et l'univers comme vous paraissez le croire. Mon cher, vous vous trompez. La plus grande puissance de mal dans le monde, c'est actuellement le grand quatuor. Quel but vise-t-il ? Nul ne le sait, mais il n'a jamais existé une telle organisation criminelle. Le cerveau le plus remarquable de l'Orient est à sa tête. Parmi ses membres, on trouve un millionnaire américain et une grande savante française. Quant au quatrième, Japp l'interrompit. Je sais, c'est une véritable obsession. Calmez-vous, monsieur Poirot, parlons d'autre chose. Vous intéressez-vous aux échecs ? Oui, j'ai même joué jadis. Avez-vous entendu parler de cette curieuse histoire survenue hier ? Ce match entre deux célébrités mondiales dont l'une est morte pendant la partie ? Oui, j'ai lu le journal ce matin. Un des partenaires était le docteur Savaronov, le champion russe. L'autre, celui qui est mort d'une crise cardiaque, et c'était le jeune et brillant américain Gilmour Wilson. C'est exact. Savaronov est devenu champion de Russie il y a quelques années, lorsqu'il a battu Rubinstein. On disait que Wilson était un second Capablanca. C'est évidemment un événement bizarre, dit Poirot. Je crois cependant, Japp, que cette affaire vous intéresse tout particulièrement. Japp sourit, un peu embarrassé. « Ma foi, oui, monsieur Poirot, vous avez deviné. J'avoue que je suis intrigué. Wilson était solide comme un chêne et ne semblait guère avoir une maladie de cœur. Sa mort est inexplicable. Soupçonnez-vous le docteur Savaronov d'avoir voulu évincer un concurrent trop puissant ? M'écriai-je. « Oh non, dit sèchement Japp. Même un Russe ne tuerait pas un adversaire pour n'être pas battu aux échecs. D'autant plus qu'au dire des connaissances, les chances étaient du côté du Russe. On le juge très fort. Il vient, paraît-il, immédiatement après Lasker. Poirot hocha la tête. « Alors, quelle est votre idée? Pourquoi Wilson aurait-il été empoisonné? Car c'est bien à cela que vous pensez. » « Naturellement. Une défection du cœur a toujours une cause. Le terme « maladie de cœur » est très vague et demande des explications. Quand l'autopsie doit-elle avoir lieu ?»« Ce soir. La mort de Wilson a été d'une rapidité foudroyante. Il semblait être dans son état normal et il poussait une des pièces lorsque, subitement, il est tombé mort. Peu de poisons ont cet effet-là. » remarqua Poirot. Je le sais. L'autopsie nous renseignera, j'espère. Mais qui pouvait souhaiter la mort du jeune Wilson? Voilà ce qu'il faudrait savoir. C'était l'homme le plus inoffensif et le plus affable qui fût. Il arrivait des États-Unis et ne semblait avoir aucun ennemi au monde. C'est incroyable, avançai-je. Très croyable, au contraire, riposta Poirot. Et je vois bien que Jap a une idée. Certainement, monsieur Poirot, selon moi, ce poison n'était pas destiné à Wilson, mais à un autre. À Savaronov? Oui, car Savaronov a été l'adversaire des bolcheviks dès le début de la Révolution. On l'a même cru tué à un certain moment. Mais il a pu s'échapper et se réfugier en Sibérie, où pendant 3 ans, il a supporté des privations inimaginables. Il en est sorti prématurément vieilli. À demi impotent, il passe sa vie dans un appartement qu'il occupe du côté de Westminster, en compagnie d'une nièce, Sonia Davilov, et d'un domestique. Peut-être se considère-t-il encore comme traqué, car on a eu beaucoup de peine à lui faire accepter ce tournoi d'échecs. Il lui est fréquemment arrivé de refuser des concours de ce genre. Et seule, la campagne des journaux qui ont qualifié son refus de peu sportif l'a décidé cette fois. Gilmore Wilson l'avait provoqué en duel avec une opiniâtreté bien américaine. Pourquoi Savaronov refuserait-il? À mon avis, pour ne pas attirer l'attention sur lui. Il ne voulait pas qu'on pût retrouver sa trace. Je persiste à croire que Wilson a été victime d'une erreur. Pensez-vous que quelqu'un ait intérêt à la disparition de Savaronov? Sa nièce, peut-être. Savaronov a récemment hérité une immense fortune que lui a léguée Madame Gospora, la femme de son ancien associé, un gros spéculateur en sucre sous le régime tsariste. Où le match a-t-il eu lieu? Chez Savaronov, comme je vous l'ai dit, il est presque impotent. Y avait-il beaucoup de spectateurs? Au moins une douzaine, peut-être plus. Poirot fit une grimace significative. Mon pauvre Jap, votre tâche ne me paraît pas aisée. Non, certainement, mais dès que je saurai si Wilson est bien mort d'un empoisonnement, je pourrai aller de l'avant. En admettant que Savaronov et non Wilson aient été visés, croyez-vous le meurtrier susceptible de récidiver? Certainement, et c'est pourquoi j'ai chargé 2 hommes de surveiller l'appartement de Savaronov. En effet, ils seront utiles si quelqu'un se présente avec une bombe sous le bras, dit sèchement Hercule Poirot. Je vois que l'affaire vous intéresse, monsieur Poirot, dit Jap en clignant de l'œil. « Voudriez-vous venir à la morgue examiner le corps de Wilson avant l'autopsie? Qui sait, son épingle de cravate est peut-être de travers et vous y trouverez une indication précieuse pour résoudre le mystère. »« En attendant, mon cher Jap, c'est votre épingle à vous qui est de travers. Je la regarde depuis une demi-heure. Vous permettez? Là, maintenant la voilà bien droite. De l'ordre, mes amis, de l'ordre en tout. Allons, Jap. » « Conduisez-moi à la morgue. » Je vis que toute l'attention de Poirot était accaparée par ce nouveau problème. J'en fus heureux, car depuis longtemps, il n'avait manifesté d'intérêt pour aucune affaire, sauf ces 10 maudits 4. Peu habitué à la morgue, je fus terriblement ému à la vue du corps inerte du jeune Américain. mort dans des circonstances aussi singulières. Quant à Poirot, il l'examina avec le plus grand soin. Il ne portait aucune marque, sauf une petite cicatrice à la main gauche. Le docteur prétend que c'est une brûlure et non pas une coupure, expliqua Jap. Poirot reporta son attention sur le contenu des poches qu'un gardien avait eu l'obligeance d'étaler sous nos yeux. Il n'y avait là rien d'extraordinaire. Un mouchoir, des clés, un porte-billet bien garni et quelques lettres sans intérêt. Un objet, cependant, retint son regard. « Une pièce d'échecs » s'écria-t-il. « Un fou blanc » était-il dans ses poches ? Non. Il le tenait entre les doigts et nous avons eu du mal à le retirer. Nous le renverrons plus tard au docteur Savaronov, car il fait partie de son admirable jeu en ivoire sculpté. Permettez-moi de le lui rendre. Cela me procurera l'occasion d'aller le voir. Ah ah ! S'écria Jap. Alors, vous voulez vous occuper de l'affaire ? Volontiers, vous avez si bien su exciter ma curiosité. Bravo ! Je suis content de vous voir abandonner votre dada. Je crois que le capitaine Hastings s'en réjouit aussi. Certainement, dis-je en riant. Vous ne voyez pas d'autres détails à me signaler ? Demanda Poirot. Non, je ne vois pas. Même pas que Wilson était gaucher ? Poursuivit Poirot en se tournant vers le corps. Ma parole, vous êtes devin, monsieur Poirot. Comment avez-vous su cela ? C'est exact, Wilson était gaucher, mais quel rapport ? Aucun s'empressa de reconnaître Poirot, qui voyait Jap un peu énervé. J'ai simplement voulu vous taquiner. Le lendemain matin, nous gagnâmes Westminster pour nous rendre chez le docteur Savaronov. Sonia Davilov, murmurai-je, mais quel joli nom ! Poirot me lança un regard de désespoir. Toujours à l'affût d'une idylle, vous êtes incorrigible. Que ce serait donc amusant si Sonia Davilov n'était autre que la comtesse Rosakov. Au seul nom de la comtesse, mon visage se rembrunit. Allons, allons, Hastings, c'est une plaisanterie. Je ne suis tout de même pas obsédé à ce point-là par les quatre, n'en déplaise à Jap. La porte nous fut ouverte par un domestique au visage glacé, qui semblait incapable d'exprimer la moindre émotion. Poirot présenta une carte sur laquelle Jap avait griffonné un mot d'introduction. Le domestique nous conduisit dans une grande salle basse, richement décorée. Deux admirables icônes étaient accrochées dans un coin. Le plancher était recouvert de magnifiques tapis persans. Sur une table se dressait un samovar luisant. À mon grand étonnement, Poirot s'accroupit sur le sol. Le tapis était beau, certes, mais méritait-il un examen aussi minutieux ? Serait-ce une pièce rare ? Demandai-je. Quoi donc ? Ah, le tapis ? Non, ce n'était pas lui que je regardais. Il est d'ailleurs merveilleux, et c'est vraiment dommage qu'on l'ait abîmé. Voyez, Hastings ? Quelqu'un a planté au centre un clou qui a laissé un large trou.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission Jolie pour vous, présentée par Hélène Vignon.
Un froufroutement soyeux arracha Poirot à sa contemplation. Une jeune fille debout dans l'embrasure de la porte nous observait avec méfiance. Elle était de taille moyenne, d'allure rien moins qu'anglaise. Son visage était attrayant mais triste. « Je crains fort que mon oncle ne puisse vous recevoir. Il est souffrant. »« Nous le regrettons, mademoiselle, mais peut-être le remplacerez-vous. Vous êtes bien mademoiselle Davilov, n'est-ce pas ?»« Oui, je suis Sonia Davilov. Que désirez-vous savoir ?» J'ai entrepris une enquête sur le pénible événement d'avant-hier. La mort de M. Gilbert Wilson. Quel renseignement pouvez-vous me fournir ? Il est mort d'une syncope alors qu'il jouait aux échecs. La police n'est pas certaine que ce soit la véritable cause du décès, mademoiselle. La jeune fille eut un mouvement d'épouvante. Ah, alors ce serait vrai? Ivan aurait raison? Qui est Ivan? Celui qui a ouvert la porte. Il m'a dit qu'à son avis, M. Wilson n'était pas mort naturellement et qu'il avait dû être empoisonné par erreur. Par erreur? Oui, parce qu'en réalité, on visait mon oncle. Elle s'était complètement départie de sa méfiance et nous parlait maintenant avec empressement. Pourquoi dites-vous cela, mademoiselle? Qui aurait eu intérêt à empoisonner le docteur Savaronov? Je ne sais pas. Je n'y comprends rien. Mon oncle paraît avoir à peine confiance en moi. Il est vrai qu'il me connaît peu. Il m'a vu lorsque j'étais tout enfant. Et il n'y a pas longtemps qu'il m'a prise chez lui. Mais je suis persuadée qu'il redoute quelque chose. Il y a de nombreuses sociétés secrètes en Russie. Et un jour, j'ai cru comprendre que les agissements de l'une d'elles l'inquiétaient tout particulièrement. En s'approchant de Poirot, Sonia Davilov demanda. Avez-vous déjà entendu parler d'une société appelée le Grand Quatuor ou les Quatre? Je crus que Poirot allait éclater. Les yeux lui sortaient de la tête. Que savez-vous des Quatre, mademoiselle? Cette société existe donc réellement? J'ai surpris quelques mots de mon oncle durant son sommeil. Mais lorsque je me suis risquée à lui poser une question, il m'a imposé silence. Jamais! Je ne l'ai vu aussi épouvanté. Je suis certaine qu'il a peur de cette bande. Les Quatre, murmura Poirot. Toujours les Quatre. Quelle coïncidence curieuse, mademoiselle. Vous n'ignorez pas que votre oncle est toujours en danger. Je veux le sauver. Aidez-moi. Pouvez-vous me faire le récit exact des faits survenus au cours de cette soirée fatale? Montrez-moi le jeu d'échecs, la table sur laquelle il se trouvait. Où étaient assis les deux joueurs? En un mot, mettez-moi au courant des moindres détails. La jeune fille s'approcha d'une petite table dont les carrés d'ébène et d'argent constituaient l'échiquier. Cette table a été envoyée à mon oncle il y a quelques semaines. On le priait de l'accepter et de bien vouloir l'utiliser lors de son prochain match. Elle se trouvait au centre de la pièce, comme ceci. Poirot examina la table avec un soin qui me sembla parfaitement superflu. À sa place, j'aurais dirigé l'enquête d'une toute autre façon. Plusieurs de ces questions me semblèrent inutiles, et par contre, les points essentiels paraissaient bien lui échapper. Évidemment, cette obsession des Quatre l'avait complètement déroutée. Après avoir soigneusement examiné l'échiquier, il demanda à voir les pièces. Sonia Davilov les lui apporta dans une boîte et il y jeta un coup d'œil négligent. « Très joli jeu, » dit-il à voix basse, comme s'il se parlait à lui-même. Il ne posa pas la moindre question relative au rafraîchissement offert aux spectateurs du championnat ou aux autres faits essentiels autour. Désireux d'attirer son attention là-dessus, je risquais, « Je pense, Poirot, « ne vous fatiguez pas à penser, mon ami, » m'interrompit-il brutalement. « Confiez-moi ce soin-là. Est-il vraiment impossible, mademoiselle, que je parle à votre oncle ?» Un faible sourire éclaira mon visage. « Non, » dit-elle, « vous allez le voir. Vous comprenez qu'il est de mon devoir d'interroger tout étranger qui se présente. » Elle disparut. Et j'entendis un bruit de voix dans la pièce voisine. Peu après, nous étions introduits. Le docteur Savaronov, étendu sur un divan, avait une physionomie extraordinaire. Maigre, décharné, avec d'énormes sourcils hirsutes, une barbe blanche et un visage hagard, ce Richard avait l'expression d'un homme se mourant de privation. Je remarquai la forme particulière de sa tête, tout en hauteur. Je n'ignorais pas qu'un grand joueur d'échecs devait avoir un cerveau bien développé. Rien d'étonnant si le docteur Savaronov était deuxième champion du monde. Poirot s'inclina respectueusement. « Monsieur le docteur, me permettez-vous de vous parler seul ?» Savaronov, se tournant vers sa nièce, lui demanda de se retirer. Elle obéit sans murmurer. « Maintenant, monsieur, que désirez-vous ? » « Je sais, docteur, qu'une importante fortune vous a été léguée récemment. Au cas où vous viendriez à mourir subitement, qui en hériterait ? Conformément à mon testament, je laisse tout à ma nièce Sonia Davilov. Vous ne pensez tout de même pas, mais je n'insinue rien. Mais vous n'avez pas revu votre nièce depuis qu'elle était enfant. » Il eût été facile à un imposteur. Savaronov sembla littéralement abasourdi. « Je n'insiste pas, ajouta Poirot, ce n'est qu'une simple suggestion. Ce qui m'intéresserait à présent, ce serait une description de la partie d'échecs de l'autre soir. » « Que voulez-vous dire ? Vous décrire quoi ? Eh bien, voilà, je ne joue pas aux échecs. Mais je crois savoir qu'il y a plusieurs façons régulières de commencer une partie. Par exemple, avancer le fou de deux carrés lorsque le roi et la reine sont avancés d'autant. « Ah, je vois ce que vous voulez dire, » répondit le docteur Savaronov en souriant. « Wilson a ouvert le jeu, Ruy Lopez. C'est une des meilleures façons de commencer. Elle est couramment pratiquée dans les tournois et les matchs. » « Depuis combien de temps la partie était-elle commencée lorsque se produisit l'accident ?»« Nous en étions, je crois, au troisième ou quatrième mouvement, quand Wilson s'écroula subitement, raide mort, sur la table. » Poirot se leva pour partir. Debout, d'un air détaché, il posa une dernière question. « Monsieur Wilson avait-il bu ou mangé quelque chose ?» « Un whisky et soda, je crois. Merci, docteur. Je ne veux pas vous importuner davantage. » Ivan nous attendait dans le hall pour nous reconduire. Mais Poirot, qui n'était pas pressé, s'arrêta sur le seuil de la porte et lui demanda. « Savez-vous qui occupe l'appartement à l'étage inférieur ?»« Sir Charles Kingswell, un membre du Parlement, monsieur. » Mais il est en voyage et l'appartement a été loué il y a peu de temps. Merci. Un brillant soleil d'hiver nous accueillit dehors. Il me tardait de dire à Poirot ce que je pensais de son enquête. Vous ne vous êtes pas distingué cette fois-ci. Vos questions n'étaient pas essentielles. Vous croyez ? Je n'étais évidemment pas en forme. À ma place, qu'auriez-vous cherché à savoir ? Je pris le temps de réfléchir et je lui exposai ma thèse qu'il parut écouter attentivement. Nous étions presque arrivés lorsque je terminai mon monologue. « C'est très bien échafaudé, Hastings, » me dit Poirot en ouvrant la porte. « Mais c'est malheureusement sans le moindre intérêt. Pourquoi ?» demandai-je un peu vexé. « Si Wilson a été empoisonné. » « Ah, tenez, tenez, tenez !» s'écria Poirot en se dirigeant vers la table pour prendre une lettre qui s'y trouvait. « C'est un mot de Jap, comme je m'y attendais. On n'a trouvé aucune trace d'empoisonnement au cours de l'autopsie et rien n'explique la cause du décès. Vous voyez bien que vos questions n'auraient servi à rien. Vous l'aviez deviné ? Non, mais j'avais simplement prévu le résultat. « Je vous en prie, ne coupons pas les cheveux en quatre, Poirot. Vous vous attendiez vraiment à ce résultat-là ? Mais oui ! Comment l'aviez-vous prévu ?» Poirot sortit un fou blanc de sa poche. « Vous avez oublié de le rendre au docteur Savaronov ? Non pas, mon cher. Celui que j'ai volontairement oublié de restituer se trouve toujours dans ma poche. » Et celui que vous voyez provient du jeu de Mademoiselle Davilov. Un fou et un fou font deux fous. Je comprenais de moins en moins. Pourquoi avez-vous dérobé celui-ci ? Je voulais simplement savoir s'ils étaient identiques. Il les mit sur la table côte à côte. Il semble pareil, je l'admets. Mais il ne faut jamais prendre pour une certitude une chose qui n'est pas prouvée. Voulez-vous avoir l'obligeance de m'apporter mes petites balances ? Il pesa soigneusement chaque pièce et me regarda d'un air triomphant. « J'avais raison, voyez-vous. On ne me trompe pas si facilement. » Et décrochant le récepteur téléphonique. « Allô, allô ? Allô, Scotland Yard ? Est-ce vous, Jap ? Ici Poirot. Surveillez le domestique Yvan. Ne le laissez échapper sous aucun prétexte. » Il raccrocha et se tourna de mon côté. « Vous ne comprenez pas, Stinks ? Je vais vous expliquer. Wilson n'a pas été empoisonné. Il a été électrocuté. Une des pièces est traversée par une tige de métal. La table était préparée d'avance et placée à un endroit bien déterminé. Au moment où cette pièce a été posée sur un des carreaux d'argent, le courant a traversé Wilson de part en part et l'a tué net. La seule trace était la brûlure qu'il portait à la main gauche, car il était gaucher. La table échiquier dissimule un mécanisme extrêmement rusé. Cependant, notez bien que celle qui m'a été montrée est un second exemplaire parfaitement inoffensif, qu'on a substitué au premier immédiatement après le crime. Tout a été préparé dans l'appartement à l'étage au-dessous, celui qui vient d'être loué meublé. Mais il y a eu au moins un complice chez le docteur Savaronov. Pour commencer, la jeune fille est un agent des quatre. Elle manœuvre pour hériter de la fortune du docteur. Et Yvan ? Je le soupçonne d'être le numéro 4. Lui ? Oui, il est un acteur admirable, sachant s'adapter à tous les rôles. Je me remémorais nos aventures précédentes. Le gardien de l'asile d'aliénés, le garçon boucher, le docteur Quentin, type tout à fait différent. « C'est surprenant, » dis-je enfin. « Tout cela se tient. Savaronov soupçonnait un complot, c'est pourquoi il montrait si peu d'enthousiasme pour ce match. » Poirot, après avoir regardé sans parler, se mit à faire les 100 pas. « Auriez-vous par hasard un livre sur le jeu d'échecs ? » me demanda-t-il brusquement. « Oui, je crois. » Il me fallut un certain temps pour mettre la main dessus. Dès que je l'apportais, Poirot s'installa commodément dans un fauteuil et se mit à lire avec le plus grand intérêt. Un quart d'heure après, la sonnerie du téléphone retentit. Je décrochai le récepteur, c'était Jap. Yvan avait quitté l'appartement avec un gros paquet. Il avait sauté dans un taxi qui l'attendait, mais les policemen l'avaient filé. Croyant à un certain moment qu'il avait dépisté ses poursuivants, Yvan s'était dirigé vers une grande maison vide de Hampstead. La maison était cernée. Je mis Poirot au courant de cette conversation. Il me regarda comme si je parlais une langue incompréhensible. Lorsque j'eus terminé, il me tendit le livre sur le jeu d'échecs. « Écoutez-moi, mon ami, voici la règle appelée Ruy-Lopez. » Premièrement, pion roi 4, pion roi 4. Deuxièmement, cavalier roi fou 3, cavalier reine fou 3. Troisièmement, fou cavalier 5. La question se pose, quel sera le troisième mouvement du noir ? On a le choix entre différentes défenses. C'est le troisième mouvement du blanc qui a tué Gilmour Wilson. Troisième fou cavalier 5, le troisième mouvement, ça ne vous dit rien ? Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il voulait dire. Supposons, mon cher Hastings, que vous ayez entendu ouvrir puis refermer la porte d'entrée alors que vous étiez assis dans ce fauteuil. Quelle idée vous serait venue à l'esprit ? J'aurais pensé que quelqu'un était sorti. Oui, mais il y a toujours deux façons de considérer les choses. Ou quelqu'un de sorti, ou quelqu'un d'entré. Deux alternatives totalement différentes. Si vous avez choisi celle qui est fausse, quelques petites contradictions se manifestera bientôt. si vous démontrera, elle vous démontrera que vous vous êtes trompé. Que signifie tout cela, Poirot ? D'un bond, il fut debout. Cela prouve que je n'ai pas été malin. Vite, dépêchons-nous. Il faut retourner à l'appartement de Westminster. Peut-être arriverons-nous à temps. Nous sautâmes dans un taxi. Mon ami demeura muet en réponse à toutes mes questions. Nous montâmes l'escalier 4 à 4, mais c'est en vain que nous sonnâmes et frappâmes, la porte resta close. Cependant, en appuyant l'oreille contre la cloison, je perçus comme un gémissement venant de l'appartement. Après de longs pourparlers, le concierge consentit à nous ouvrir à l'aide de son passe-partout. Une bouffée de chloroforme nous accueillit. Sonia Davilov était étendue sur le sol, dûment bâillonnée et ligotée. Un gros tampon d'ouate imbibé de cet anesthésique lui couvrait le nez et la bouche. Poirot l'arracha et tenta de ranimer la jeune fille en attendant l'arrivée du médecin mandé d'urgence. Nous parcourûmes les autres pièces de l'appartement sans trouver trace du docteur Savaronov. « Que signifie tout cela ? » demandai-je effaré. « Cela signifie que deux déductions également plausibles. Des deux, j'ai choisi la mauvaise. Vous m'avez entendu dire que n'importe qui pouvait facilement se faire passer pour la nièce de Savaronov, étant donné qu'il ne l'avait pas vue depuis de longues années. Eh bien, c'est le contraire qu'il me fallait envisager. Il était non moins facile, au premier venu, de prétendre être l'oncle. « Que dites-vous ? » Mais oui, Savaronov est mort au début de la Révolution. L'homme qui prétendait avoir subi de telles privations, l'homme devenu méconnaissable par suite des souffrances endurées, l'homme qui a hérité une immense fortune. Eh bien, qui était-il ? Le numéro 4. Rien de surprenant à ce qu'il ait été épouvanté lorsque Sonia lui a parlé des 4. Il m'a glissé une fois de plus entre les mains. Il a compris que je finirais par flairer la bonne piste. Et voilà pourquoi il a expédié le brave Ivan à la recherche d'un mouton à 5 pattes, a immobilisé la jeune fille et il a pris la fuite. À l'heure qu'il est, il a certainement réalisé la majeure partie des valeurs laissées par Madame Gospora. Mais dans ce cas, qui a essayé de le tuer ? Personne. Wilson était bien la victime visée. Dans quel but ? Mon cher, Savaronov était le second grand joueur d'échecs du monde. Or, selon toute probabilité, le numéro 4 n'a pas la moindre notion du jeu. Il ne pouvait donc pas soutenir la fiction du match. Il a tout tenté pour éviter le tournoi, mais lorsqu'il a dû s'exécuter, le sort de Wilson était réglé. Il fallait pour tous les moyens d'éviter de révéler que le grand Savonarov ignorait les échecs, Wilson. On le sait, commençait toujours sa partie par Ruy Lopez. Voilà pourquoi le numéro 4, au troisième mouvement, a mis un terme à la partie, avant que surgissent les difficultés de la défense.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Joli pour vous », présenté par Hélène Vignon.
Mais mon cher Poirot, avons-nous affaire à un fou ? Je suis parfaitement votre raisonnement, mais on ne tue pas un homme simplement pour sauvegarder un rôle. Il devait y avoir un autre moyen, invoquer par exemple la maladie, l'ordre du docteur lui interdisant absolument un match. Poirot fronça les sourcils. « Certainement, Hastings, me dit-il. Il y avait bien d'autres moyens, mais celui-ci lui a semblé plus convaincant. De plus, n'oubliez pas que le numéro 4 ne voit pas les choses de votre façon et que la mort d'un homme ne lui paraît pas importante. » En me mettant à sa place, chose qui vous est impossible, je m'imagine ses pensées. Le fait même de se faire passer pour le docteur Savaronov l'amuse. Il a certainement assisté à des tournois d'échecs pour bien étudier son rôle. Il est là, grave, méditatif, donnant au spectateur l'impression d'élaborer des combinaisons savantes. Et toute cette farce le fait rire à son fort intérieur, bien sûr. Il sait très bien qu'il est incapable de faire plus de 2 mouvements, mais ces 2-là suffisent amplement. Il est heureux de prévoir le couronnement de la partie. Son partenaire s'exécutera lui-même au moment fixé par lui. Le numéro 4. Le destructeur aura détruit un homme de plus. Croyez-moi, Hastings, je commence à bien connaître notre homme et sa psychologie. À bout d'arguments, je m'avouai vaincu. J'ai tout lieu de croire que vous avez raison, mais je ne m'explique pas qu'on court un tel risque alors qu'il était si facile de l'éviter. De quel risque parlez-vous ? Repartit Poirot. Voulez-vous me dire où il y a risque ? Jap aurait-il résolu l'énigme ? Non. Si le numéro 4 n'avait pas commis une petite erreur, il n'y aurait pas eu l'ombre d'un risque. Et quelle erreur a-t-il commise ? Demandai-je, devinant déjà la réponse qui ne se fit pas attendre. Il n'a pas compté avec la matière grise d'Hercule Poirot. Poirot ne manque pas de qualité, mais la modestie n'est pas du nombre. Chapitre 12. La trappe. À la mi-janvier, en une vraie journée d'hiver londonien, humide et sale à souhait, Poirot et moi étions assis au coin du feu. Je sentais que mon ami m'observait avec un sourire cocasse, mais je n'en devinais pas la cause. « Je donnerais bien 2 sous pour savoir à qui vous pensez, » dis-je. « Je songeais que lors de votre arrivée, mon cher Hastings, en plein été, vous m'avez dit que vous ne resteriez pas en Angleterre plus de 2 mois. J'ai dit cela, mais je ne m'en souviens pas. Le sourire de Poirot s'épanouit. J'en suis certain, mon cher, ce souvenir de Tours, c'est mon affaire et pas la vôtre. Je suppose que depuis, vous avez changé vos projets. Oui, effectivement. Et pourquoi cela ? Si vous tenez à le savoir, c'est très simple. Je n'ai pas l'intention de vous abandonner au moment où vous êtes aux prises avec des adversaires aussi importants que les 4. Poirot acquiesça gentiment. C'est bien la pensée qui m'était venue. Vous êtes un ami dévoué à Hastings. Mais votre femme, la petite Cendrillon comme vous l'appelez, qu'en dit-elle ? Je me suis bien gardée de lui donner des détails. Mais elle me comprend parfaitement. Elle serait la dernière à me demander d'abandonner un camarade. C'est une sœur, une vieille sœur. Mais Hastings, tout cela peut durer encore longtemps. Un peu navré, je fis signe que c'était aussi mon avis. Voilà déjà 6 mois de passé. Et où en sommes-nous ? Dis-je à voix basse. Il me semble, Boireau, que nous devrions faire quelque chose. « Je reconnais bien là votre énergie bouillonnante, Hastings. Et de quelle façon souhaiteriez-vous agir ?» Question embarrassante. « Mais j'étais bien décidée à ne pas déserter ma position. Nous devrions reprendre l'offensive, suggérais-je. Nous n'avons guère bougé jusqu'à présent. Plus que vous croyez, mon ami. » N'oubliez pas que nous avons établi l'identité du numéro 2 et du numéro 3 et que nous avons étudié à loisir, si l'on peut dire, les méthodes du numéro 4. Soyez-en persuadés, Hastings, nous avons parcouru un bon bout de chemin. Il est vrai que je ne suis pas encore à même d'accuser formellement Ryland ou Madame Olivier. Qui me croirait ? Vous ai-je dit que j'ai confié mes soupçons à quelques personnages haut placés, entre autres à Lord Aldington. J'ai travaillé avec lui dans l'affaire du vol des plans de sous-marins. Il connaît mes méthodes et il a confiance en moi. À l'heure qu'il est, il est au courant du mystère des 4 et si personne ne doutait encore, lui me croit. Ryland, Madame Olivier et Li Shangyan peuvent agir à leur guise, leurs gestes n'en sont pas moins soigneusement observés. Pour terminer notre lecture du jour, nous avons encore découvert que Hercule Poirot est toujours le meilleur, alors que tout le monde pensait que le joueur d'échecs mort pendant la partie d'échecs a joué contre le docteur, avait été empoisonné. Hercule Poirot, lui, a donné une conclusion, le joueur d'échecs a été électrocuté. Et un peu plus tard, c'est Sonia Davilov qui a été elle-même, elle a subi la tentative d'un crime, bâillonnée, ligotée. Pour connaître la suite, n'oubliez pas, Radio Alliance Plus, 103.2 FM et DAB+. Pour le direct radio et la rediffusion, c'est l'émission « Je lis pour vous ». Pour retrouver ainsi nos podcasts, c'est dans le site www.radioallianceplus.fr. À bientôt, chers auditeurs.